Et nous continuons dans la vie de David. Nous sommes dans le premier livre de Samuel, dans l'Ancien Testament, et je vous invite à suivre avec moi. Et nous sommes arrivés au chapitre 22. David et ses vaillants hommes. La dernière fois, nous avions vu que David avait perdu pied. Il était dans le doute, dans la peur, dans la crainte. Et nous savons que le doute mène à la peur, hein, et que la foi, au contraire, n'a pas de crainte. Elle fait confiance au Seigneur. Mais là, il va se reprendre et nous allons découvrir encore une fois un aspect spirituel de sa vie. On va lire dans 1 Samuel 22. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpeh, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en, et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héreth. Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses gens. Saül était assis sous le tamari, à Gibéa, sur la hauteur. Il avait sa lance à la main et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Et Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui, « Écoutez, Benjamite, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de mille et des chefs de cent? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi afin qu'il me dresse des embûches comme il le fait aujourd'hui ?» Doeg, l'Édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit « J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob auprès d'Achimélec, fils d'Achitoub. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel et lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. » Le roi envoya chercher Achimélec, fils d'Akitoub, le sacrificateur, et toute la maison de son père, les sacrificateurs qui étaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit, « Écoute, fils d'Akitoub. » Il répondit, « Me voici, mon seigneur. » Saül lui dit, « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée, et as-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'élève contre moi et me dresse des embûches, comme il le fait aujourd'hui ?» Achimélec répondit au roi, « Lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison? Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui, loin de moi, que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur ni de personne de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande ?» Le roi dit, « Tu mourras, Achimélec, toi et toute la maison de ton père. » Et le roi dit au coureur qui se tenait près de lui, « Tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient et ne m'ont point averti. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. » Alors le roi dit à Doeg, « Tourne-toi et frappe les sacrificateurs. » Et Doeg, l'Édomite, se tourna. Et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'éphod de lin. Saül frappa encore du tranchant de l'épée, Nob, la ville sacerdotale. Hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes, brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. Un fils d'Achimélec, fils d'Akitoub, échappa. Son nom était Abiathar. Il s'enfuit auprès de David et lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. David dit à Abiathar, « J'ai bien pensé ce jour même que Doeg l'Édomite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis la cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. » Voilà, nous sommes toujours dans ce conflit terrible entre Saül et David. Saül est le roi d'Israël, mais un roi qui a été rejeté par Dieu, et pourtant il est toujours en exercice. David est l'homme selon le cœur de Dieu qui a été oint comme nouveau roi, mais qui n'est toujours pas en exercice. Il est toujours en fuite. Le fils du roi Saül, Jonathan, est devenu un ami fidèle de David et il a protégé plusieurs fois, mais tout en restant aux côtés de son père, en étant fidèle à son père. David s'est enfui bien vite. Nous avons vu dans le chapitre précédent qu'il est allé voir le sacrificateur qui lui a donné à manger. Et ensuite, il est allé dans le pays des Philistins. Il a joué le fou pour ne pas être tué parce que c'était l'ennemi des Philistins. Finalement, il s'est enfui. Il est allé dans cette caverne. Et Saül, à nouveau, tombe dans cette folie meurtrière, dans cette paranoïa. Pour lui, tout le monde est contre lui. Et il y a des gens comme ça qui sont paranoïaques. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, vous êtes contre lui. Et pour lui, tout le monde s'est ligué, son propre fils s'est ligué, alors que, en fait, les gens savent que David va être le prochain roi, les gens voient bien que Saül est un fou dangereux, il est le seul à ne pas le voir. C'est terrible. Et il accuse tout le monde de le trahir, hein, et vous avez vu qu'il répète à deux reprises, « Il me dresse des embûches, il est contre moi, mais David n'a rien fait contre Saül. » Strictement, plusieurs fois, Saül a voulu le tuer avec sa lance, David s'est juste écarté, mais il ne s'est pas vengé, il ne l'a pas frappé, il n'a pas menacé Saül, n'a jamais, jamais avancé la main contre le roi, alors que le roi, lui, a voulu le tuer plusieurs fois. Et pourtant, Saül dit « Oui, il me dresse des embûches !» En fait, tant que David est en vie, Saül n'est pas satisfait. Il faut qu'il élimine David parce qu'il sait qu'il va prendre sa place. Il sait que lui a perdu sa place et il va tout faire pour détruire David et tout ce qui l'entoure. Et vraiment, ce scénario nous fait penser au combat entre Satan et le Messie. Nous apprenons dans les prophètes que Satan était un chérubin protecteur. Un chérubin protecteur, c'était une classe d'anges, hein, les chérubim, qui gardaient la gloire de Dieu dans le ciel, qui étaient les anges les plus proches de Dieu. C'est ceux qui ont été sculptés sur le coffre de l'Arche de l'Alliance, hein, avec leurs ailes qui, justement, gardent la gloire de Dieu. Sur le coffre, ce ne sont que des sculptures. Mais dans le ciel, il y a les vrais chérubim. Et un jour, le chérubim Lucifer a voulu être adoré comme Dieu. Il a voulu la gloire de Dieu pour lui. Il a voulu être Dieu à la place de Dieu, calife à la place du calife. Et dès qu'il a eu cette pensée d'orgueil et de révolte, les prophètes disent que Dieu l'a précipité. Hein. Et l'Apocalypse dit qu'il a entraîné avec lui le tiers des anges, qui sont devenus du coup les démons. Hein. L'ange, l'archange, le chérubin est devenu Satan, le diable, et tous les anges qui l'ont suivi sont devenus les démons, les anges déchus. Et nous apprenons par la Bible donc qu'après que Satan soit tombé, il est devenu le prince de ce monde. C'est lui qui a tenté Adam et Ève. Hein. Immédiatement, il s'est dit, je ne peux pas m'attaquer à Dieu, je vais m'attaquer à sa créature. Et il n'a eu de cesse que d'éliminer le Messie. C'est lui qui a corrompu la race humaine au temps de Noé pour qu'il n'y ait que de la violence. La Bible dit qu'au temps de Noé, hein, les gens ne faisaient que du mal et ne pensaient qu'à faire du mal, au point que Dieu a décidé de détruire l'humanité, sauf ceux qui le suivraient en construisant un bateau. Et c'est seulement Noé et sa famille qui ont survécu parce qu'ils ont cru au jugement de Dieu à venir. L'arche de Noé symbolise Christ, hein, et Noé, c'est le type du croyant fidèle qui attend et qui croit au Seigneur contre tout le reste du monde. Satan a perdu cette bataille, hein, mais il a continué. Maintenant qu'il ne pouvait plus s'attaquer à la population, il s'est attaqué aux Juifs, parce qu'Abraham est le père du peuple hébreu, et il s'est attaqué aux Hébreux, puisque Dieu avait dit à Abraham, hein, tu auras une semence infinie et de ta semence sortira le Messie. Et donc, Satan s'est attaqué à la lignée d'Abraham, ensuite de Jacob, etc. Et il a continuellement cherché à détruire les Juifs. Le roi Saül a été rejeté, mais il s'accroche à son trône. Satan a été rejeté, mais il s'accroche à son pouvoir. Alors, il y a une question à laquelle il faut quand même essayer de répondre, c'est pourquoi Dieu n'a pas éliminé Satan directement? Pourquoi Dieu laisse-t-il Satan être le prince de ce monde et faire du mal et tenter les gens? Il n'y a pas une réponse directe, il n'y a pas un verset qui dit, voilà, Dieu laisse Satan pour telle ou telle raison. On le comprend avec un peu toute la Bible, mais c'est que ça reste un peu comme l'arbre du bien et du mal. Dans le jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et c'était un test pour la foi d'Adam et Ève. Est-ce qu'ils allaient obéir à Dieu, avoir la connaissance directement de Dieu, ou est-ce qu'ils allaient chercher la connaissance à travers le fruit du bien et du mal? Malheureusement, ils ont désobéi et ils ont cherché la connaissance par eux-mêmes. Et la présence de Satan est un test pour les hommes. Il y a ceux qui veulent suivre Christ et ceux qui veulent suivre Satan. Alors, ceux qui veulent suivre Satan, ce n'est pas forcément les satanistes seulement. Il y a des satanistes, hein, des personnes qui vénèrent Satan, qui cherchent à lui plaire, à travailler pour lui, et ils sont de plus en plus nombreux, malheureusement. Mais il y a aussi, nous tous, ce que nous étions. Je lis dans Éphésiens, chapitre 2, il dit aux croyants d'Éphèse, « Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. » Et donc, ce que dit Éphésiens chapitre 2, là, c'est qu'avant de connaître Christ, nous étions sous l'influence du prince de la puissance de l'air. Hein. Enfin, c'est le prince de l'atmosphère, c'est celui qui règne sur la terre, Satan. Ça ne veut pas dire qu'on était sataniste, même certains d'entre nous ne croyaient même pas au diable. Mais on était sous son influence dans la rébellion contre Dieu. Toute personne rebelle à Dieu et à sa parole est en fait sous l'influence de Satan. Même si elle ne croit pas à l'existence de Satan. Et quand on quitte cette influence et quand on se tourne vers Christ, tout devient clair, la Bible devient claire et on comprend tout, tout s'éclaire dans le monde. Personnellement, quand j'étais étudiant, avant de connaître le Seigneur, j'essayais de comprendre le monde. Alors je lisais les philosophes et puis je m'intéressais à la politique internationale et nationale. Je me disais, comment tout ça se met en place? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et je ne comprenais rien, c'était la confusion totale. Quand j'ai accepté le Seigneur, tout est devenu plus clair. Il y a vraiment ce combat spirituel entre Satan et les forces du mal et Christ. Et on le voit dans cette bataille entre Saül et David. La haine de Saül est surnaturelle. David n'a fait que du bien à Saül. David jouait de la harpe pour lui afin d'apaiser ses souffrances psychiques. David n'a jamais dit un mot contre Saül. Comme je vous l'ai dit, il ne l'a jamais même menacé ou touché. Et Saül veut le détruire, veut le tuer. Regardez comme il tue toute la famille des sacrificateurs. Il a touché au sacrificateur. C'était ce qu'il y avait de plus sacré en Israël. Il y a des juifs qui n'osaient même pas regarder un sacrificateur. Ils les respectaient au plus haut point. C'était la tribu de Lévi, c'était des gens à part, consacrés à Dieu. Et lui, le roi, il les fait tous massacrer. Il les fait massacrer alors que ces soldats, hein, ces coureurs-là, les coureurs, c'est ceux qui portaient les messages, hein, refusent de porter la main, évidemment. Ce sont des juifs, et on ne veut pas toucher aux sacrificateurs. Surtout que c'était totalement injuste de les tuer. Mais il y avait un homme qui était là, Doeg, l'Édomite. Les Édomites, ce sont les ennemis héréditaires des juifs. Les Édomites, c'est les descendants de quel homme? Ésaü, le frère de Jacob. Et souvenez-vous, hein, il y a eu ce conflit de ces deux jumeaux, Jacob et Ésaü. Et Ésaü voulait tuer Jacob, hein, pour se venger qu'on lui avait volé son droit d'aînesse. Enfin, en fait, on ne lui avait pas volé. Il avait vendu à son frère son droit d'aînesse, sa bénédiction d'aîné. Et il a voulu tuer Jacob. Et finalement, il y a eu une réconciliation vers la fin de la vie de Jacob. Mais les descendants d'Ésaü se sont éloignés d'Israël. Ils sont devenus des ennemis héréditaires. Hein. Les Édomites, on les voit dans les prophètes notamment. Et ils sont des ennemis permanents. Là encore, cette haine pour les Israélites, pour les Juifs, vient du diable. Hein. Je vous ai parlé des premières attaques de Satan contre Israël, mais il faudrait parler aussi de Pharaon qui a voulu asservir les Juifs du temps de Moïse. Aman au temps d'Esther qui a voulu les tuer tous. Le roi des Moabites, les Moabites sont des ennemis d'Israël aussi. Balak qui a utilisé le faux prophète Balaam pour séduire Israël. Et pour les mélanger avec des femmes non juives. Les Assyriens qui ont attaqué les Ninivites, qui ont attaqué Israël et qui ont fait quelque chose de terrible, c'est qu'ils les ont tués et ceux qui restaient, ils les ont arrachés de leur pays, ils les ont mis ailleurs. Et ils ont remplacé les Israélites par des Assyriens. Et ça, il n'y a rien de pire, vous tuez complètement la culture, la vie, vous êtes complètement déracinés, vous n'avez plus de pays, plus de terre. Les Babyloniens sont venus ensuite. Et puis plus tard, c'est Hérode qui était un Édomite, justement, Hérode. Ce n'était pas un Juif, Hérode. Voilà. C'était un Édomite qui a massacré les bébés pour tuer le roi qui allait venir. On voit encore l'esprit de Saül. Hein. Hérode est le roi. Jésus naît. On dit que Jésus est le roi d'Israël. Hérode fait tuer tous les bébés de Bethléem. C'est le même schéma qui se reproduit continuellement. Saül et David. Satan qui entre dans Judas pour qu'il livre Jésus et pour faire tuer et crucifier le Seigneur. Et là où Satan est bête, parce que la méchanceté n'est pas intelligente, l'orgueil rend idiot et stupide, c'est que Satan, en faisant crucifier Jésus, en fait, c'est crucifier lui-même, parce que le Seigneur Jésus, par la croix, a triomphé du diable, de la mort et du jugement. Et il est ressuscité victorieusement. Mais il ne s'est pas arrêté là. Et les Romains, en l'an 70, ont massacré des milliers, des dizaines de milliers de Juifs en Israël. Ils ont rasé Jérusalem, ils ont rasé le Temple et ils ont emmené en captivité, déporté les Juifs. Dans les années 100, ils ont appelé Israël la Palestine. Je vous avais parlé de ça une fois. C'est que le nom Palestine est un nom donné par les Romains à cette terre pour les humilier, parce que Palestine, ça vient de Philistins, terre des Philistins. C'était pour vraiment dire aux Juifs, ce n'est plus votre terre, vous n'êtes plus les bienvenus, ce n'est plus à vous, vous êtes détruits. Et ils ont été répandus dans le monde entier jusqu'en 1947, où après le massacre des nazis, où les nazis se sont acharnés, là encore, c'est le plus grand massacre jamais perpétré, 6 millions de Juifs. Mais on oublie aussi les communistes. Si Staline n'était pas mort, il aurait peut-être tué plus de Juifs que Hitler. Staline avait commencé une purge des Juifs parmi les Russes, mais il est mort avant de pouvoir la terminer. Aujourd'hui, on reparle encore de l'antisémitisme. Et on n'a pas fini d'en reparler, je peux vous le dire. Il y a l'affaire avec Dieudonné, qui s'entoure d'islamistes, de néo-nazis et de personnes qui sont dépitées, déçues et qui en veulent à tout le monde. Et quel est le meilleur bouc émissaire que les Juifs? C'est tout est de leur faute. C'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont le pouvoir et ils veulent nous dominer, nous écraser. Quand vous regardez l'histoire, les Juifs ont passé leur temps à être écrasés, à être massacrés. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est essayer de survivre. Et comme chaque fois qu'ils faisaient confiance à Dieu, Dieu les a bénis, les autres étaient jaloux. Et c'est souvent par jalousie que les Juifs ont été tués. Les pays arabes qui entourent Israël sont jaloux parce qu'Israël est un tout petit pays, mais c'est le seul qui est une démocratie. C'est le seul qui a une économie florissante. Tous les autres, s'ils n'avaient pas le pétrole, ils seraient encore avec leurs chameaux. C'est le pétrole gardent, mais leur économie n'est pas forcément très florissante. Les gens sont toujours dans la pauvreté et surtout pas dans la démocratie. Et la Bible dit que l'antisémitisme va remonter jusqu'à l'antéchrist. Dans Apocalypse 12, on découvre le futur de cette bataille terrible avec le dragon. Apocalypse 12, dans les premiers versets, on y voit une femme avec 12 étoiles sur sa tête. Qui est la femme avec 12 étoiles sur sa tête? Pas l'Europe, non. Israël. Voilà, ce n'est pas la Sainte Vierge comme certains commentateurs de la Bible le disent. L'image de la lune sous ses pieds et les 12 étoiles sur sa tête est directement inspirée de la Genèse de Joseph, qui a eu un songe et il a vu. Donc son père et sa mère, c'était le soleil et la lune, et ses frères, c'était les 12 étoiles, parce que ils sont les descendants de Jacob, les 12 tribus, les 12 enfants de Jacob. Et donc, ça représente le peuple juif qui est enceinte. Pourquoi il est enceinte? Parce qu'il enfante le Messie. Et puis, verset 3, il y a le dragon. Le grand dragon, c'est bien sûr Satan. Le dragon, c'est toujours Satan dans la Bible. 7 têtes et 10 cornes. Et ça montre que Satan a plusieurs formes, plusieurs façons de se manifester. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire dans ce passage. Est-ce que ce sont des pays? Est-ce que ce sont des coalitions de pays? Ce sont des leaders politiques? C'est probablement un peu tout ça en même temps. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Donc là, il s'agit, les étoiles, c'est les anges dans l'Ancien Testament. Donc Satan entraîne le tiers des anges avec lui, comme je vous l'avais déjà dit. Et tout le monde va sur la terre pour s'attaquer à qui? Eh bien, à la femme qui va enfanter. La femme qui va enfanter, c'est Israël qui amène le Messie. Verset 5 de Apocalypse 12, « Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. » C'est une citation du psaume 2 qu'on va voir après. « Son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. » Donc ça, c'est lorsque Christ remonte vers le ciel. « Et la femme s'enfuit dans le désert. » Donc ça, c'est futur, Israël va devoir s'enfuir dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Ça fait combien d'années, 1260 jours? 3 ans et demi. Ceux qui connaissent les prophéties de la fin savent que la grande tribulation durera 7 ans. Ces 7 ans seront séparés en 2 périodes de 3 ans et demi. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'il y a 1260 jours, ça fait 3 ans et demi, c'est que elle sera protégée, Israël, pendant les 3 années et demie de la tribulation. Elle est nourrie, protégée par Dieu. Verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Vous voyez cette guerre spirituelle que nous, on ne voit pas, mais qui est constante et qui a une influence sur la terre, directe. Michaël ou Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Dans quel livre de l'Ancien Testament trouve-t-on Michaël? Daniel, c'est lorsque Daniel, qui est l'Apocalypse de l'Ancien Testament lorsque Daniel prie et qu'il demande à Dieu d'accomplir sa volonté pour délivrer les Juifs, puisque Daniel est en captivité à Babylone, il apprend que l'archange Michaël défend Israël, c'est l'archange qui veille sur Israël et qu'il a été retenu par justement la puissance de Satan, mais qui finalement il est arrivé. Et donc il y a ce combat permanent, c'est ce que vous pouvez trouver à la place Saint-Michel. La fontaine Saint-Michel, c'est quoi? C'est l'archange Michel qui terrasse le dragon. C'est directement inspiré de Apocalypse 12 qu'on voit maintenant. Et le dragon et ses anges combattirent, verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, donc là on voit bien qui c'est, appelé le diable et Satan. Diable, ça veut dire quoi en français? Vous savez pas. L'accusateur, diabolos, celui qui jette des accusations, l'accusateur. C'est pour ça qu'il est appelé l'accusateur des frères. Hein. Et Satan, ça veut dire quoi en hébreu? Satan. L'adversaire, hein, c'est l'ennemi suprême. D'ailleurs, beaucoup de juifs ne disent jamais son nom. Hein. Ils disent l'autre, ou même, je crois que les... c'est en Afrique aussi, ils me disaient. Hein, on dit pas Satan ou le diable, on dit l'autre. Non, c'est ça? Voilà. C'est bien parce qu'il ne mérite pas qu'on s'occupe trop de lui. Mais il faut quand même connaître l'ennemi. Leur place ne fut plus trouvée. Il est précipité, donc il est précipité sur la terre. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et un autre passage dit qu'il voyait qu'il avait peu de temps. Et donc c'est un peu plus tard, si on saute, verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme, donc Israël, qui avait enfanté le fils, Jésus. Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps. Donc ça c'est toujours les 3 ans et demi, hein. Et les deux ailes du grand aigle, l'aigle c'est Dieu dans l'Ancien Testament, symbolise... c'est l'oiseau qui est le roi des oiseaux, hein, qui vole le plus haut, qui est le plus puissant. Certains ont vu là un symbole de l'armée de l'air américaine, hein, les ailes de l'aigle. Philippe dérange. Donc il répète que Israël est protégé. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. C'est symbolique, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais ça peut être moins symbolique qu'il n'y paraît. C'est qu'il y a une bataille de l'eau au Moyen-Orient. Et Israël a beaucoup détourné d'eau pour faire des plantations. Hein. Il y a des champs de blé dans le désert, ce n'est pas venu comme ça. Hein. C'est qu'ils ont détourné des cours d'eau pour les faire venir, et ils ont fait dans le Negev notamment, hein, donc c'est ces grands canaux, et il y a une bataille de l'eau, parce que l'or blanc, c'est l'eau. Hein. Il y a l'or noir, le pétrole, mais bientôt ce sera l'eau qui sera, et le pétrole, on peut arriver à vivre sans, mais l'eau, on ne peut pas vivre sans. Et donc il est possible qu'ils détournent aussi les ennemis d'Israël, hein, pour les chasser, je ne sais pas, ça nous fait penser, et certains ont pensé là, que c'était en Jordanie, à Petra. Parce qu'à Petra, dans cette configuration-là de cette ville taillée dans le roc, lorsqu'il y a des pluies, l'eau remplit, hein, les tunnels un peu de pierre et noie tout le monde. Hein. Il y a eu beaucoup de morts là dans ces tunnels de pierre. Et alors il dit peut-être que c'est à Petra qu'Israël sera protégé et qu'avec l'eau qui va arriver, ils seront obligés de fuir. On ne sait pas. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu qui retiennent le témoignage de Jésus, et il se tint sur le sable de la mer. Et puis ensuite on voit chapitre 13, la bête qui est l'antéchrist qui arrive et qui va lui achever de tuer, hein, de massacrer les juifs, il va mettre son image dans le temple à Jérusalem pour qu'on l'adore à la place de Dieu, de l'Éternel. Tout cela est futur. Et la Bible dit dans les prophètes que Dieu chassera des nations, hein, tous les juifs, pour qu'ils aillent à Jérusalem. Et ceux qui ne seront pas chassés seront tués. L'antisémitisme est très fort dans les pays arabes, dans les pays musulmans. Il devient très fort en Occident à nouveau, en France. Il y a cette montée. Il y a des néo-nazis qui réapparaissent partout en Europe. Vous avez vu en Grèce, ils ont même été élus. Certains d'entre eux, hein, et finalement ils ont dû être mis dehors parce qu'ils avaient tué, assassiné quelqu'un. Ces néo-nazis remettent au goût du jour ce que Hitler a dit, il faut tuer les juifs, ce sont eux qui sont les responsables de tous nos maux. Un livre qui a beaucoup influencé, un livre écrit par un russe, qui a beaucoup influencé tous ces gens et qui est toujours imprimé, réimprimé et traduit, c'est le Protocole des sages de Sion. Est-ce que vous avez entendu parler du protocole des sages de Sion? Voilà. C'est un faux. C'est un russe qui a écrit ça par antisémitisme et il fait croire qu'il a entendu des rabbins se réunir pour préparer un complot mondial. Ils se sont réunis dans une pièce et ils ont dit, comment peut-on dominer le monde et écraser ces païens, ces chiens de païens? Et donc, ils font un plan. Alors, c'est même pas très précis dans le livre, hein, leur plan, mais leur plan, c'est d'être riche et de dominer sur tout le monde, de prendre le pouvoir partout. Et ce livre a eu un succès fou dans les années 30, et Hitler a surfé sur le message de ce livre. Et puis, également, il a été traduit en arabe, et là, beaucoup de pays arabes lisent ce livre en disant « Ah, voilà, les Juifs, regarde ce qu'ils font, ils se liguent contre le monde ». Et encore une fois, les néo-nazis utilisent encore ces idées, le fameux complot sioniste, judéo-maçonnique. Et vraiment, en tant que chrétien, il nous faut prendre position pour le peuple juif. Dieu prend position pour le peuple juif. Ça ne veut pas dire qu'on doit dire que tout ce qu'ils font est merveilleux, parce que ce serait faux. Beaucoup de juifs aujourd'hui sont totalement athées et incrédules. Il y a beaucoup d'athées chez les juifs, d'agnostiques et même de gens qui travaillent contre l'évangile ou contre la Bible. Mais c'est le peuple que Dieu a choisi et nous devons l'aimer et lui apporter l'évangile. Et nous devons prier pour la paix de Jérusalem et nous devons savoir que celui qui hait les juifs, c'est Satan. C'est l'ennemi de Dieu. Il faut choisir si on est du côté de Saül, je reviens à Samuel 22, ou du côté de David. Du côté de Dieu, du Messie, de Christ, de Michaël, l'archange, ou du côté de Saül, de Satan et de tous les ennemis d'Israël. En Jésus-Christ, on peut être réconcilié. C'est ça qui est merveilleux. Juif et non-juif. Nous avions vu donc ce film, reportage, qui montrait des Palestiniens qui étaient devenus chrétiens, évangéliques, et qui côtoyaient des Juifs devenus chrétiens aussi, et qui s'aimaient comme des frères et sœurs, qui n'avaient plus de haine ou de ressentiment, ni de jalousie. Il y a un jour où nous devrons vraiment prendre position pour Israël, protéger des Juifs encore, comme ça a été le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale, et surtout ne nous laissons pas aller à aboyer avec les antisémites et avec les nazis. Dans le psaume chapitre 2, qui a été écrit par qui ? Voilà, merci. Justement, David, qui est notre personnage dont on parle. C'est un psaume prophétique. Il dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations ?» Les nations, ce sont les non-juifs. Ces vaines pensées parmi les peuples, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son Messie, son oint ? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Pardon. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Alors là, il parle à la fois de David, lui-même, et en même temps, c'est prophétique, il parle du Messie, qui est oint sur la montagne sainte, sur Jérusalem. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Et là, c'est fort. Ça montre que le Messie est fils de Dieu. C'est écrit là. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ici, ça parle du futur, encore une fois, la prophétie sur le retour de Christ pour régner sur la terre. Il dit les princes, les rois se liguent contre Christ. En fait, ils se liguent contre qui ? Contre les Juifs et contre les chrétiens. Portes Ouvertes vient de publier l'index de la persécution 2014 Et bon, ça, il n'y a pas beaucoup de changements. C'est toujours au même endroit qu'il y a les mêmes persécuteurs, au milieu de la terre. Hein. Ça va de l'Afrique hein, jusqu'à l'Asie. Toute l'Afrique centrale, hein, Soudan, donc persécution contre les chrétiens. Donc Centrafrique, hein, on en a parlé. Et puis ensuite, tout le Moyen-Orient, tous les pays musulmans. Même l'Afrique du Nord aussi, l'Algérie hein, est mise dedans. Et puis l'Asie après, surtout la Corée du Nord étant le pire. La persécution est toujours là et ils se liguent de plus en plus contre les chrétiens et aussi ils vont le faire contre les juifs. Mais il faudra, ce jour-là, lorsque Christ reviendra, il faudra baiser le Fils. C'est une expression pour le roi, hein, où on baise sa main, où on baise ses pieds. Mais c'est-à-dire, on reconnaît qu'il est le roi. Voilà. Pendant la grande tribulation, hein, les hommes auront le choix, soit attendre Christ comme roi, soit être sous le joug de l'Antéchrist. Hein. Et s'ils suivent Christ comme roi, ils seront persécutés à mort. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la grande tribulation, nous sommes avant, et tant mieux. Et la Bible dit que nous, qui connaissons le Seigneur, nous ne participerons pas à cette grande tribulation, parce que nous ne participerons pas à la colère de Dieu. Cette tribulation, ce sera un jugement de Dieu sur la terre. Il retirera son Église, il enlèvera l'Église avec Christ et il retirera le Saint-Esprit et la terre sera livrée vraiment au chaos. Il y aura beaucoup de gens qui vont croire encore. Il y a une foule hein, qui vient de la tribulation, dit la Bible, mais ils croiront vraiment au risque de leur vie. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, il y a un autre passage qui nous parle de cette haine du Messie. Cette haine qu'on a vue entre Saül et David. Enfin, Saül envers David. David n'a pas de haine, lui. 1 Corinthiens 2, versets 6 à 8. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Les parfaits, ça ne veut pas dire des gens qui sont parfaits, c'est une expression biblique qui veut dire les gens qui sont mûrs, qui ont la connaissance de Dieu, qui marchent avec Dieu. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Paul dit que les chefs de son siècle, que ce soit les chefs religieux juifs ou les chefs romains, les empereurs et tout ça, ont crucifié le Messie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la sagesse de Dieu. Ils ont la sagesse humaine. La sagesse humaine, hein, des empereurs et des rois, c'est quoi? Ben c'est être puissant, être riche, dominer le monde. Mais la sagesse de Dieu, c'est tout à fait autre chose, hein. C'est l'espérance céleste, c'est dans l'humilité. Le roi Christ est venu humble, assis sur un ânon. Il n'est pas venu sur un cheval avec une épée. Ça, c'est Mahomet qui était comme ça. Jésus, lui, était sur un ânon, sans armes, avec l'amour et le don de sa vie. Nous sommes toujours dans cette époque où les chefs de ce monde, les penseurs de ce monde, les professeurs d'université, les docteurs et tout ça, pour la plupart, sont contre l'évangile. Ils trouvent ça stupide. Les grands scientifiques sont contre l'évangile et l'idée d'une création par Dieu. Mais encore une fois, on ne veut pas être du côté de Saül et de Satan, on veut être du côté de David et de Christ. Je terminerai ce soir avec David. Vous avez remarqué dans le chapitre 22 qu'il est rejoint par des gens de toutes sortes. Des gens qui avaient des dettes, des gens qui étaient mécontents du roi et surtout des gens qui étaient en détresse. Le mot là utilisé en hébreu, c'est des gens angoissés. Quand vous avez un chef qui est à moitié fou, c'est l'angoisse. Nous avons nos frères africains qui ont, dans certains pays, des chefs qui sont pas forcément fous, mais presque. Ça, vous vivez dans l'angoisse permanente. Qu'est-ce qui va décider? Qu'est-ce qui va lui passer par la tête? Il va tuer qui aujourd'hui? Et un certain nombre de personnes ont rejoint David parce qu'ils croyaient en lui, ils croyaient qu'il était le futur roi. Ils étaient 400. Et ces hommes vont devenir les vaillants hommes de David. Ils vont faire des exploits phénoménaux avec David. C'est grâce à leur présence avec David qu'ils vont devenir comme ça. Au départ, c'était des gens plutôt mécontents, pas forcément doués ou quoi que ce soit, mais c'est en la présence de David, il va y avoir quelque chose qui se passe entre eux, une force qui vient de Dieu, et ils vont devenir les fameux vaillants hommes de David. C'est un ramassis de gens, mais ils se sont soumis à leur roi, David. Ils ont reconnu en David le roi. Ça me fait penser à nous. Nous étions un ramassis de gens. Aux yeux de Dieu, nous sommes pécheurs. Nous ne sommes pas des gens extraordinaires. Nous ne sommes pas purs. Nous étions perdus dans nos péchés, coupables, sales, rebelles, impies. Mais un jour, nous avons entendu l'Évangile qui nous a dit que Jésus-Christ est le Sauveur, le Seigneur. Et nous avons quitté l'influence de Satan, le prince de ce monde, le tentateur, celui qui nous conduit dans le péché, et nous avons dit non, maintenant je veux suivre Christ. Même si on est une poignée, même si on est mal vu, hein, David, dans quoi il vit là avec ses hommes ? Dans une caverne, hein. Franchement, ce n'est pas l'endroit rêvé, même s'il s'est abrité, hein. Mais ce n'est pas dans un palais, on est d'accord. Ce n'est pas une demeure pour un roi, mais ils l'ont suivi quand même. Menacés de mort en permanence, ils étaient prêts à subir tout ça parce qu'ils croyaient en lui et ils avaient confiance en lui. Et nous, nous avons confiance en Christ. Nous étions pécheurs, rebelles, mais nous avons suivi Christ, nous l'avons accepté dans notre vie. Dans 1 Corinthiens 1, il y a ces versets que j'aime beaucoup, verset 26, il dit « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Ça, c'est les croyants. Nous ne sommes rien, nous sommes méprisés. Nous ne valons rien, mais Christ nous a rachetés, nous a sauvés. Nous avons été appelés par l'Évangile et nous avons répondu et nous sommes sauvés. Nous sommes enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont plus élevés que tous les rois et tous les princes. Mais sur la terre, nous devons vivre humblement. On doit accepter l'humilité, la clandestinité pour certains, la pauvreté pour d'autres. L'opprobre de Christ, ça, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas un honneur aux yeux du monde d'être chrétien. Mais pour nous, c'est un honneur. Et Jean, dans son épître, 1 Jean chapitre 3, verset 2, dit ceci au sujet des croyants. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque Jésus paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Pour l'instant, on ne voit pas ce qu'on va devenir. Mais un jour, quand Christ reviendra, nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Nous serons environnés de la gloire de Christ. Nous serons dans la pureté absolue, dans la félicité absolue. Aujourd'hui, nous sommes avec David dans la grotte, pourchassés, méprisés, accusés. Mais ça nous est égal parce que nous suivons le roi, le Seigneur Jésus-Christ, qui est bon, qui est doux, humble de cœur. Nous ne voulons pas plus suivre Satan, qui est un maître dur et impitoyable et paranoïaque et qui détruit tout ce qui l'entoure. Et nous nous glorifions dans le Seigneur. J'espère que c'est votre cas ce soir, que vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, que vous vous rendez compte du combat spirituel qui est au-dessus de nous et nous en faisons partie lorsque nous prions, lorsque nous annonçons l'Évangile. Hein. Ça fait partie du combat, ce sont nos armes, la prière et l'Évangile. À nous de les utiliser et de remporter des victoires, comme David a remporté des victoires. pour le nom du Seigneur. On va terminer par la prière.